someone without skin. And now he feels the rain. And he saw a double chin. He was having trouble and he had it for a while. His daughter died a year ago. She was his only child.
Thank you. c'est sur ce dernier morceau que nous quittons les frères Minnick de 180 G's, une reprise magistrale du Residence Commercial Album. Cette reprise de 180 G's Commercial Album Covering paru sur étiquette Klang Gallery sous la direction de David Minnick. Qui est professeur de musique. J'ai fait une petite recherche, mais c'est assez complexe. Il y a toute une mythologie abracadabrante autour de ce groupe. Alors, je ne sais pas qui sont les véritables frères Minnick. Tout comme nous ne savons pas qui sont les Residents. Par contre, nous savons très bien qui est Monty Canson. Tout le monde peut être Monty Canson, mais il y a un Monty Canson qui a laissé sa marque dans l'imaginaire montréalais, c'est Ijvan Kantor. Nous avons maintenant un entretien avec Ijvan Kantor à l'occasion du 40e anniversaire du néoïsme à Montréal, qui a eu lieu il y a un mois et demi. Et nous allons donc passer la prochaine heure, 10 minutes, avec Ijvan Kantor qui nous parle de ses actions géotransgressives illégales dans les musées, comme il se le targue. C'est l'artiste le plus banni de tous les musées au monde, Ijvan Kantor. Ben, c'est parti. Alors, Ijvan Kantor, bienvenue à l'ère du diable.
Bonjour.
Est-ce que je t'appelle Monty Canson, Ijvan Kantor, ou Ramen, ou je mélange, quoi? Je
fais un tu peu peux tout. Mélanger comment tu veux, oui.
OK. Tu as commencé comme Monty Canson, d'ailleurs, puis c'est intéressant parce que ton identité...
Pour longtemps, j'étais connu comme Monty Canson, ouais. Oui. Oui.
Ensuite, devenu Ijvan Kantor, Monty Canson, puis ensuite, il y a eu Amen qui est arrivé. Mm-hmm. Amen, parce que c'était assez long, ça ressemblait à une prière.
Le moment quand je commençais à utiliser Amen, c'était un moment quand je pensais que j'avais rien de nouveau à dire, juste pour dire Amen. Mais enfin, je réalisais que c'était pas vrai. Et Amen, c'était un moment juste dans ma vie quand il fallait que je change.
Et c'est intéressant parce que dans Amen, la référence est quand même christique. Et le sang est au centre de ton travail. Et ça, c'est très chrétien aussi. Je fais de la psychanalyse 101. Je fais de la pop-psycho, là, mais...
Mais Amen, c'est pas nécessairement chrétien, parce qu'on utilise Amen dans toutes les religions.
Oui, oui, dans ce sens-là, oui. So I will switch from English to French, French to English. I was with Richard Martel, so the co-founder of Revue Inter and Le Lieu, a few weeks ago, and we had this day about art maneuver.
Yeah.
What is an art maneuver? And he started the speech saying that it's you in the discussion in the 80s that proposed this term at first, because it's coming from the military tradition.
Right.
Can you talk about that?
Do
you
remember about it? Well, I'm glad to hear that he said that, because I was always kind of... I found it difficult when people started also using this term... manœuvre que j'ai déjà utilisé pour assez longtemps et personne n'a jamais remarqué que c'était un terme that it was a neoist term but was very important in our work because we from the very beginning when neoism started wanted to use terms that had nothing to do with the art vocabulary. Like we didn't want to talk about time and space and color and all these things and forms and structure, but we wanted to use a language that belonged mostly to the administrative forces, to the military forces, to the government, to all the leading authorities, a language that was completely different from art and also alien to art because people didn't want to use that kind of language because it belonged to other systems, not to the art system, but it was exactly what we wanted to explore, to use that language. And so That's how maneuver got into our way of expressions. And I was very kind of surprised when also in Quebec they started to use it for performance, like a new kind of performance.
Well, it's mostly Alain Martin Richard who wrote this great text, Manœuvre, Matériau, Manœuvre, qui est un super text.
Yeah, of course. And I think I still find that it's a very good term, and it's very strong, and it is taking us to a way larger territory than just performance. Mm.
Et c'est de ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est des manœuvres que tu as fait, parce que tu fais de la musique, tu fais de la performance. Là, je parle pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore.
Oui.
Tu fais de la musique, tu fais des œuvres interdisciplinaires, donc des performances spectaculaires qui sont à la fois des parodies de spectacles aussi. Hein?
Oui.
Dans un sens, il y a toujours cette dimension à la fois spectaculaire et parodique du spectacle lui-même. Et tu as une pratique en art.
J'aimerais aussi dire ironique ou sarcastique,
oui,
plutôt
voilà.
Que parodique.
Oui, c'est
parodie,
vrai.
Parodie, c'est trop gentil.
C'est vrai. Et d'ailleurs, cette ironie, ce sarcasme, on le trouve aussi dans tes autres activités. Par exemple, tu es poète et tu es même chanteur folklorique. Tu as déjà chanté.
C'est vrai, oui.
Musique hongroise. Ben oui, parce qu'il y a des éléments qui apparaissent. Tu fais de la musique bruitiste. Bon, les performances, c'est ce qui t'a... je pense que les gens t'identifient beaucoup à tes performances. Mais il y a aussi les manœuvres donc, qui sortent du cadre de la galerie ou du cadre où c'est annoncé, où c'est planifié. Puis c'est sur ça que j'aimerais qu'on focus aujourd'hui parce que c'est le 40e anniversaire du néoïsme. Et ça, c'est un aspect évidemment plus difficile à documenter quand c'est à l'extérieur. Mais toi, t'es très, très bon pour documenter les actions que tu fais. Mais pour le grand public, on a moins... ça arrive et c'est le public qui est là qui voit ce qui arrive. Hein. C'est pas toujours annoncé ou c'est presque jamais annoncé. Donc, il y a cette limite de la documentation. Mais j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui de ces premières actions où t'es allé dans l'espace public ou même dans des espaces privés. Je me rappelle, je prends un exemple comme ça, en 95, quand Gheorghi Galantai était venu, je les avais accueillis, puis t'étais venu à Articule et t'avais fait une action sans l'annoncer. Donc, c'était dans une galerie, alors évidemment, c'était bien accueilli. Mais t'as fait des actions dans l'espace public et aussi dans des espaces comme des musées qui sont tes plus célèbres parmi les manœuvres. Hein. Alors, peux-tu nous parler des premières actions et à partir des premières actions, comment la trajectoire s'est déroulée pour que tu te rendes jusqu'à faire les actions dans les musées et devenir l'artiste le plus banni de tous les musées du monde?
Yes, well, this is definitely a question that will take me a long time to completely explain and what's the source of this and where I wanted to take this project. But I wanted always to work in authoritarian spaces so I could create more tension and provocation than in a gallery where easily on accept artistic expressions and people just applaud and smile and etc. However, if I take this out from the system of art of the galleries and I enter into a different space, okay, museums are part of the art system, but museums are very alienated from artist transcenders, from the underground, from culture that does not belong to the museums because they don't have really, they are not in touch with it because their kind of what the work they are doing is nothing to do with the new exploration, but they always go back in history or at least 5-10 years. You can't even have an exhibition in a museum after you propose a project, maybe 3-4 years after or whatever. So they are always behind. So when you go to a museum and without invitation and just create an action and they get immediately arrested and taken to court for vandalism or just disturbing the peace or whatever.
But you never vandalized any work in the museum.
I did vandalize, not by... because I wanted to vandalize them, but it some, happened that accident. Some of my blood, as an accident, went on like a Picasso in the Museum of Modern Art in 1988 in New York. And then I, according to the MoMA, the Museum of Modern Art, where I did that performance, I caused the $10 million damage. $10 million, which was lots of money, of course. And so that was a felony because some of my blood went on that Picasso girl with a mirror, which is one of the most important Picasso paintings. And so... that was vandalism, considered vandalism, but the whole performance, because it was about freedom of speech, had contradicted that vandalism, because I didn't go there to vandalize any kind of artwork, but I went because I wanted to continue talking about police brutality, and I thought that Picasso, who was a very free-minded person and was against wars and the violence and all these things, would love that.
So you choose à côté de quelle œuvre tu vas intervenir.
Absolument. Quand je fais ce travail, I don't just walk into and start throwing my blood in the walls. Usually I go like 1 week or 2 weeks before to the museum or to the place where I want to do something unofficially and look for the best place possible. In that case, I found that the Picasso room was quite far away from the security headquarters in the Museum of Modern Art. And also that particular room where I decided to execute my performance, that was more distanced from all the guards, or the security guards. They were rather standing in rooms next to that room. So I knew that I can have some time for myself to... splash to do my X on the wall. And also, there was a wall with these two Picassos. One was the girl with a mirror, and the other one was one of the Femme d'Avignon.
Ah, oui.
And there was a big space between them. So
c'était
I calculated parfait. That white wall, that was really good for me to do my... blood X, and without hurting any of these Picassos, because obviously I wasn't going there because I don't like Picasso, but because I love Picasso, and that's always the case also. I love those artists, of course.
Donc c'est un hommage à ces artistes-là aussi.
It was not a homage to Picasso. No, absolutely, I don't have to pay homage to Picasso. Why would I have to pay homage to Picasso? I wanted to pay homage to those people who participated in the riot at the Tompkins Square Park that happened a couple of weeks before, in August, there was a big demonstration because the city wanted to kick out the poor people, the homeless, from the park, from the Tompkins Square Park, where they lived in tents. You know, New York was always famous that there were the most homeless people in the world, meanwhile also the richest people on the world. So was a very tense situation. And this particular demonstration was very strong. And artists wanted to defend the homeless, the poor, and So there was a confrontation between the police, who wanted to kick them out, and the artists, and not only artists, but other people who lived in the East Village. The Tompkins Square Park is right in the middle yes. of the East Village, close to the Lower East Side. And so this confrontation resulted almost like, you know, a small revolution that was in New York. That was a big thing because it didn't happen something like that before. And they brought in a helicopter, the city, and a tank, and the police on horses. And so lots of people was really hurt, and hundreds were arrested. And, you know, it was a... It was a big night.
Là, c'était des grosses manœuvres.
Yeah. Yeah, it was. So I decided that I'm going to continue the discussion, and also I wanted to do something for my friends who were arrested and beaten up and ended up in hospitals and... You know.
Okay, donc l'idée de faire cette action là au musée, c'est venu tout de suite après l'intervention
suite après.
Policière.
Yeah, exactly. So I went to the museum to find a good place, and then I executed this performance on my birthday, basically. So I spent actually one day before, on August 26th, and so I spent my birthday in prison. Which was a very interesting experience, of course.
Et d'ailleurs, tu parles du Lower East Side. C'est là aussi qu'il y avait la Rivington School.
The Rivington School, and I was part of the Rivington School, and the Rivington School was part of the Tompkins Square Riot.
Okay. So it was. C'était connecté.
Oh, absolument. Many of the artists from the Rivington School were part of the Tompkins Square Riot, and they ended up also in prison.
Parce que tu disais que les grandes villes comme Montréal. Ou je ne sais plus, Toronto, c'était un peu ennuyeux. Maintenant que tout se passait dans Lower East Side, j'ai lu ça, je ne sais plus où récemment. Là.
OK.
Je ne sais pas, c'est toi qui as dit ça. Things happen there, no? It's Lower East Side.
Yeah, that's true, yeah. Well, the Lower East Side was always a place for...
It's here. Non, c'est vieux. I'm sorry, it's not recent. Yeah. Europe is rotten and America is boring. All my hopes are lost, except for one small part of the world, the Lower East Side.
Yeah, right. Yeah, because that's where the revolutionaries lived, because the Lower East Side was very cheap.
Oui.
Because the rents were, you know,
at that time.
At that time. No. Oh, of course, we are talking about the 80s.
Yeah, the 80s, yeah.
The 80s, yeah.
Wow.
And so... Anyway, to finish this museum intervention at the MoMA, right after, I had six tubes of my blood taken from my arm the day before that I had in my pocket, and I successfully threw them all on the wall and made a really, really beautiful, large blood X. On the wall. The question always comes up, why I'm doing this X mark, the center of things, and around this center of things circulate everything else, people's ideas, the idea of the museum, the security, the police, the whole world, because this performance finally gets all around, because through the media, people get to know about it, and that was also a very important part of it. So the Tompkins Square riot will not only have an effect in New York for a smaller community, but also it becomes larger because through this performance people will hear about what's happening. And in fact, it was very successful because by getting arrested and going to prison, I had lots of media.
Yeah.
And so through the media I could... express myself. And after that, for 2.5 years, because I had to go to court, I could express myself in court. And that was also very important.
Wow.
Because the media was following it. And so there was that was like a, you know, a good place to talk, to open up a conversation through this system, which is a completely different system than the art system. And the art system wouldn't be ready for this kind of conversation because they are politically correct. They want to remove themselves from this kind of discussions because that's not what they are interested Indeed. About. And all the commercial galleries and, you know, all the other arts, they absolutely don't have to do anything with it. And so all the system is basically against it.
There is no money to do with that.
No money to do.
Mais en fait c'est intéressant parce que l'intervention en cours, c'est la suite de l'œuvre. Ça fait partie de la manœuvre. It's right. art.
Yeah.
It's art too.
Yeah. And, it's high art. I mean, there is no question. I mean, I don't think that anybody can question that it is art. Or, of course, lots of people question, and of course, the museum said it's not art. This is just like terrorism, or this is an extreme kind of protest that they don't want in their space. Okay, they don't want in their space, but it has already a history because I wasn't the first one who did some.
There's Jean Toche and the Guerilla Action Group.
And they
had to stop because they've been badly hurt.
And it can go back also to. In Europe, it has a kind of tradition, almost like the Vienna Art Action Group from the 60s. And many other artists, even Joseph Beuys, he used this kind of maneuver, kind of performances in his work, you know. So I think in North America, at least at that time when I was doing this at the Museum of Modern Art, this was kind of unprecedented, even though the Guerrilla Art Action Group, they were doing it, but way more harmonious and rather just talking to the authorities there, and sometimes they convulsed on the floor or whatever.
I think they did two or three actions which were more like comment dit, confrontationnel.
Oui.
But then they were badly hurt by the cops, and then they started to be more careful. Yeah, this is what happened.
Yeah. So anyway, this is a good way to start this conversation.
Et je suis curieux, combien de fois es-tu allé en cours après cette action-là au moment? Tu dis que you went to court.
Couple of weeks, yeah.
And for how long?
2.5 years.
Every couple of weeks? So you had to stay in New York? You have to live there?
Living in New York. I moved to New York from Montreal, actually, in 1985.
Yeah.
But previously, also, I was very active in New York. Like, I didn't live there, but I stayed there for a month, for 3 weeks, or whatever. I organized the New East Festival in 1982. That was one of the very important beginning in New York. This kind of like the Rivington School and all these people I was connected with, and so I could be part of New York maneuvers without living. But in 1985, I knew that I had to move to New York because it was already at that stage that I had to be there. I couldn't do it just from Montreal.
Est-ce que c'était ta première action, ta première manœuvre dans l'espace public sans permission, ou t'en avais fait d'autres avant?
I have done many, many others before. In Montreal, if we want to come back in history, I have done one of the museums, the Musée d'Art Contemporain. At that time, the Musée d'Art Contemporain was located in the Cité du Havre, exactement. And it happened in 1985, and I can actually look up on my computer the exact date. What I'm doing here.
Ah, mais tu peux prendre ton temps, on va faire un montage de toute façon.
Okay.
On peut même mettre un morceau de musique pendant que tu...
Okay.
Attends, je vais mettre Catastronix.
Yeah,
c'est bien.
That'd feel good.
Ça, c'était les années 80. 83 à l'origine, 86.
Non, non, 81 ou 82.
Oui, yeah. 81 avec Bill Vaughan. Hein?
Bill Vaughan.
little birds.
Cantor Monty Canson amène Catastronix. C'est une pièce de 81-82 avec Bill Vaughan. Et je me rappelle du liner note sur le vinyle. Là, on a la version CD. C'était Electronics and Catastrophes. C'est les deux points, ces deux articulations de l'humanité, de l'histoire du monde. Un truc comme ça. C'était un statement.
Hein? Well, that's true today as well. Like, catastrophes are playing a very important role presently in our culture, presently in our life, everyday life, and we are heading into a big, huge disaster.
Ou bien c'est la crainte de la catastrophe, mais qui n'arrive pas.
And also, well, of course, electronics, what was the most important takeover in the 80s and when...
The 20th century, I think. You were right, definitely.
Brought in a completely new way of communication and dealing with the whole world through this new system, digital system and everything. So that was two things that I put together in this song, of course. The military beat and the military sounding like a march, and the electronic effects and all these things were... That was also like a kind of maneuver.
Oui, ben tout à fait. Oui, ben en fait, c'est toujours le fond, toujours un fond conceptuel, même s'il n'est pas manifeste. Dans tout ce que tu fais, il y a toujours ce statement conceptuel que des fois tu révèles, mais des fois tu ne révèles pas nécessairement.
Exactement.
C'est ça. On revient aux manœuvres, aux premières manœuvres, justement. Puis ça va être intéressant de parler de l'électronique parce que si j'avais une question et tu pourras me parler de cette manœuvre en regard à cette question-là, c'est comment tu documentes et comment les différentes technologies, même si c'est du lo-fi, peuvent contribuer à activer les manœuvres ou comment tu les utilises. Ivan Cantor.
OK. Mais, premièrement, c'est ce que je veux te dire. Je juste regarde les listes que j'ai ici sur mon computer de toutes les performances que j'ai faites dans les espaces publics. Et I have to say that as a country, not country music because it was not a folk singer, a Hungarian folk singer in my late teens and early 20s, I did that a lot. I did...
Aller chanter dans la rue.
Je chantais dans la rue. Et après, quand j'ai quitté la Hongrie et que je suis allé à Paris aussi, j'étais une... performeur dans le...
De rue.
Rue et aussi dans le subway, dans le métro. Ouais.
Et donc, tu pourrais gagner ta vie comme ça.
I was a metro singer and that's how I survived, making some money. And that time, actually, it was not yet permitted to play music in the subway, dans le métro à Paris. Non, il n'y avait pas de permission. So, presque tous les jours, j'étais pris par la police... Il me mit dehors de le métro et où ils m'ont emmené à la station de police. J'étais un réfugié politique et j'ai expliqué que j'ai rien à faire d'autre
t'avais
de travail, j'avais besoin d'argent.
Tu avais vraiment le statut de réfugié politique officiellement.
Oui, j'avais le statut à Paris réfugié politique.
Okay, parce qu'en Hongrie, tu avais eu des problèmes avec les autorités, donc c'est ça avant que tu
Exactement.
Partes.
Exactement. Okay. J'étais mis dehors de l'université. Et ensuite, je n'avais pas d'autre chance que de partir.
D'accord.
Bien sûr.
Okay.
Et je suis arrivé à Paris comme un réfugié politique et je restais là-bas pour un an. Je survis dans le métro comme une musicienne. Je pouvais faire assez d'argent pour manger, boire et payer pour un très petit appartement quelque part.
À l'époque, on pouvait faire ça à Paris, parce qu'aujourd'hui, c'est un niveau de ville où c'est devenu impossible.
Oui, exactement.
Et comment ça se passait avec les policiers français qui ne sont pas réputés pour leur gentillesse, leur flexibilité?
Les Français même étaient très chauvinistes aussi.
Être hongrois à Paris, c'était assez difficile.
C'était difficile. Ah, oui. C'était très difficile. Et je voulais pu rester à Paris. Je suis allé à Paris parce que je pensais que je vais recommencer ma vie là-bas. Mais à Paris, j'ai appris que c'était pas possible parce que quand je voulais faire quelque chose, commencer à faire quelque chose, les Parisiens, les artistes parisiens, ils me répondu « Oh, ça fait vieux, on a fait ça déjà, ça fait 100 ans.
Oh, » Non, d'accord.
Oui.
Ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est une réponse classique. Hein?
Et puis, c'était absolument nécessaire que je parte. Je pouvais rien faire à Paris. C'était pas possible, man. C'était complètement une situation, presque la même chose.
Et donc, à Paris, tu as fait de la musique illégalement, dans des endroits publics, mais
oui.
Tu n'as pas fait de performance de manière
illégale.
J'ai fait
de la performance aussi dans la rue. Okay. Oui, j'ai fait beaucoup de performances.
À la même époque, on parle de 70, années 70.
Oui. J'ai beaucoup de documentation.
Alors là, j'imagine que la réaction des policiers, c'était pas la même si tu faisais une performance un peu choquante ou si tu chantais une chanson folklorique. Ils ne devaient pas avoir la même réaction.
Oui, c'était... Mais... Pour moi, c'était très choqué parce que je pensais que Paris était beaucoup plus libre. Arrêter tout le temps pour jouer la musique folklorique. Ils m'ont bien sûr investigué tout ça. C'était très difficile à vivre à Paris pour moi. Très, très difficile.
Alors, tu as traversé l'Atlantique et tu es arrivé à Montréal parce que tu es allé à Portland, si je ne me trompe pas.
Oui, mais j'étais ici à Montréal pour quelques temps, et puis j'ai travaillé dans une usine, j'ai fait le ménage, toutes sortes de choses que je pouvais pour faire un peu d'argent.
Puis tu avais été infirmier avant en Hongrie, non?
Je travaillais comme,
aide-infirmier.
Ouais. Et aussi... paramédic, j'étais un paramédic.
Okay. Donc, l'histoire
parce que je suis allé à l'université de médecine.
À Budapest. Et oui. Donc, l'histoire du cadavre qui pourrit dans la vie est plate, pourrie, cruelle, c'est vrai? C'est une vraie histoire, cadavre?
C'est absolument une vraie histoire. Ouais, mon premier jour dans l'hôpital et c'était la première fois quand j'ai mis ma main dans le sang.
Froid
de quelqu'un qui est mort le soir avant. Il fallait que je rapporte cette personne à la morgue.
Oui, mais c'est pour ça ensuite que tu... Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu t'es intéressé au sang comme matériau principal dans ton travail après?
Très importante. Oui, absolument, c'est très importante. Il y a beaucoup d'autres choses. La poésie, il y avait un poète très important, hongrois, André Adi, qui est aussi très connu pour parler de sang très souvent. Et Blood and Gold, cette chanson que j'avais écrite, c'était... sur un poème de André Adi, qui était quelque chose, un spirit pour moi très important pour m'aider dans dans mes activités créatives. Okay. Oui.
Alors, revenons à cette action, ce que j'appelle géotransgressive, parce que tu es allé dans un espace, tu n'avais pas le droit. Quelle est la première action que tu as listée dans ton méga liste d'à peu près 1000 performances,
j'imagine? OK. J'ai commencé déjà à parler de musée d'art contemporain. On peut continuer avec ça. Un musée d'art contemporain, c'était 85, mais avant 85, j'ai déjà fait beaucoup de performances dans les...
dans la rue,
dans les espaces,
à Paris,
espaces publics, mais cette performance dans le musée d'art contemporain était très importante parce que c'était la première fois que j'ai fait une donation.
Ouais.
Parce que je suis allé
au
musée et puis and I said here is my gift to the museum for the collection, and I did that because at that time there was a exhibition of the important new artists in Quebec, in Montreal, a new wave of artists doing new kind of work, and not only the young artists, also older artists. But I wasn't invited, I wasn't invited, so it was kind of bugging me that why they didn't invite me, because I was doing already quite important work at that time here in Quebec and in Montreal especially. And so I was pissed. I was completely pissed. And I wanted to include myself. And I included myself, yes. I went to the museum and I threw my blood on the wall. And the guards didn't even see that.
Ah bon,
that was
ça pas
very funny.
Mais t'as lu un manifeste néoïste dans un porte-voix?
I prepared everything and I had somebody to take the pictures and everything. But the guards didn't see anything. So I was standing there next to my blood painting on the wall.
And the guard didn't care.
And the guard didn't care. And so I went, Monsieur, s'il vous plaît.
C'est incroyable.
Regardez, qu'est-ce que j'ai fait?
Parce que je sais que dans les autres actions, tu déclames le manifeste du cadeau. Est-ce que tu avais ce manifeste à ce moment-là ou comme c'est la première fois, tu avais juste fait le cadeau sans manifeste? Ou...
I had a letter of donation.
Parce que c'est sûr, quand tu cries, ça attire l'attention, quand tu parles.
Yeah.
I
was very surprised because I expected them to see what I was doing and immediately react, and there was no reaction, so I had to go to the guard and tell...
Hello, I did something wrong. Did you notice?
Can you look what I did? And then he said, oh, why did you do that? Who gave you permission to do this?
It's awesome.
And I said, nobody. This is a gift for the museum, a surprise gift. Oh, a surprise
nice.
Gift. And I told, and this is all true, this I'm not making it up. I told to the guard, please go, s'il vous plaît, allez, tell to the director of the museum that I'm here and I would like to donate this piece to the museum.
À Paris, ils auraient réagi plus vite. T'étais habitué aux gardes parisiens, toi.
Definitely. So he was actually okay.
Il est allé voir le directeur.
Il est allé voir. Et le directeur est venu. Le directeur est venu. Le vrai directeur.
Mais c'était qui à l'époque?
C'était amazing. I was so surprised. And it never happened afterwards. Never happened. Only the security always comes. And, then we have
but
to
it,
start
it was a
dealing.
Small space. The museum at Cité du Havre was smaller.
It was
a square.
It was smaller. And it was... it was kind of more like a family kind of thing, and
it
was not so authoritarian.
C'est
it
ça.
Was not so authoritarian.
C'est assez sympathique.
No, yes, it was beaucoup plus sympathique que les musées aujourd'hui. Oui,
c'est une autre époque. C'était avant le 11 septembre aussi.
Oui.
Et qu'est-ce que le directeur a dit? Comment il a réagi?
Il a dit merci.
C'est génial.
Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez garder pour quelques jours? Oui,
oui,
on
super.
Va garder, c'est super, oui. Il me demandait, mais pourquoi, monsieur Cantor, pourquoi vous n'appelez pas? Vous pouvez m'appeler et on pouvait discuter, on pouvait faire une performance, inviter les gens, tout ça. And then I told him, but listen, then it would have been completely different. I wanted to create a surprise action. This is not something official, and that I wanted to keep it this way. I couldn't. That's the idea. That's the most important part of it. That it's done. Without permission. This is without permission.
Ah oui. Et là, est-ce que le conservateur a réagi à ça quand tu lui as expliqué que c'était ça qui était important, without permission?
Yeah, yeah. Actually, he was this director, what's his name? He was very important.
Parce que j'ai vu le nom de Pierre Théberge, mais Théberge, il était au Musée des Beaux-Arts, lui. C'était pas le même... Pierre Théberge était...
Yeah,
c'était pas,
yes,
c'était lui?
That's him.
Il était directeur du MAC?
He was the one who was actually a priest before.
He was in T-Pop. Pierre Théberge was part of T-Pop movement.
Yeah.
But maybe...
No,
and
no,
he was
I can't remember the name. I have definitely written down somewhere, and you can check it out as well.
Sure.
1985, who was the director of the Musée d'Art Contemporain.
This is an amazing story.
Yeah.
C'est incroyable. Mais c'est un des rares bons souvenirs d'interaction avec les autorités après the perfect gift.
So I was absolutely disappointed.
I'm sorry for you, Joanne.
They are not going to arrest me. I can go, okay, and we shaked hands and I think people told me after, I don't know if it's true or not true, that they cut out that part of the wall.
Ah bon?
With my
ils
body.
Ont gardé?
And they.
C'est dans la collection ils permanente gardé, du musée?
Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai jamais
investigué. C'est incroyable.
Mais c'est peut-être ça.
Écoute, je vais poser la question. Parce que je travaille avec eux sur le lancement du livre, là.
Ah oui?
Alors, leur demander. Je vais demander peut-être
oui,
pour le
demande,
si,
demande,
on, si on pouvait l'avoir
demande,
pour le lancement
oui,
du livre,
oui.
Et qu'ils sortent le truc. On verra. Écoute, donc la suite, donc ça, celle-là, ça s'est bien passé. Alors, quelle était la suivante dans les musées, puisqu'on est dans la catégorie musée, action dans les musées?
Oui.
Il y a eu donc le Musée d'art contemporain, il y a eu le MoMA, mais t'as refait l'action au MoMA 30 ans plus tard. C'est ça, tu l'as fait deux fois au MoMA. Tu l'as fait récemment, tu l'as fait...
Non, non, that was the Whitney.
Ah, OK, parce qu'au MoMA, ils ne laissaient pas entrer.
Yeah, after a performance like this, they never let me in again.
Et l'action Whitney, c'est celle dont on voit sur la photo où tu es, tu as fait la croix derrière une sculpture de Jeff Koons.
Yeah, well, because it was the Jeff Koons retrospective.
Ça veut dire que tu aimes Jeff Koons?
Well, let's clear up one thing. It's never about the artist, really. It's always about the authority.
Yeah.
It's always about the institutional... kind of authority that I'm, if we call it
acting.
A protest,
right.
Yeah, I'm acting against or I'm questioning. Let's say it this way. I'm questioning and I want to have some kind of a solution or whatever because it is a very, very important thing because I represent this way not only myself but also many other artists.
Yeah.
who live under the authoritarian dictatorship of these institutions. And this is true. Maybe I'm using very strong words, but the corporate system created a very big dictatorship in these institutions because bien sûr, these institutions survive with the money what they get from big corporations. That's the only way they can do it. And so, because that's the situation, the corporate kind of aesthetics will definitely control what is in the museum, what kind of shows they are going to have in the museum. Because they don't want to give their money for something what they don't want.
Yeah, that will criticize
or,
them.
Or
yeah, that, quelque chose qui pourrait leur nuire, quoi.
Ouais. Obviously, they deny that. They deny that, but that's.
Ou bien ils peuvent faire, ils peuvent faire de la récupération, genre Shell ou une pétrolière va subventionner une exposition qui est écolo pour montrer comment la compagnie est sensible à ces questions.
Anyway, so it is always about this. Not about Jeff Koons, but Jeff Koons also, obviously, in my manifesto, what I have written and addressed to Jeff Koons, I express.
Listen, you smell something? I'd call that a big yes.
I feel so funky.
Bankman, get a sample of this. This is hot, Ray.
I'm very excited. I'm very pleased. I want you to get right down to this. Listen. You smell something?
Okay, well, looks like we're underway. This is Logic Johnson. You're tuned in to CKUT 90.3 FM, Greater Montreal, and you are tuned in to another episode of Listen. Did you smell something? Pre-recorded for your safety. And here we go with your weekly dose of vitamin C to get you going. It's chock full of antioxidants and other funky nutrients. Once again, you're tuned in to CKUT.